prends la parole pour parler d'un autre magistrat. Lui aussi inquiet peut-être de l'absolutisme. Et si j'avais dû donner un titre à cette communication, je l'aurais appelé quelques figures de l'insoumission, dans les lettres personnelles. Alors j'espère d'abord que je vais réussir à tenir ma voix et que vous m'entendez à peu près jusqu'au fin fond des rangs. Avant tout, donc, je remercie également les organisateurs de cette journée pour leur invitation. C'est d'autant plus aimable que je l'indique d'emblée, au risque de vous inquiéter, et contrairement à mes voisins d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de l'auteur en question, et je ne suis donc pas un spécialiste de Montesquieu, mais un explorateur, disons, plus généralement, de l'irreligion des Lumières, dans laquelle Montesquieu tient une place assez ambiguë, j'y reviendrai, bien moins saillante, en tout cas, que les auteurs que j'ai davantage eu l'occasion d'étudier, que ce soit Voltaire, Rousseau, Diderot ou celui sur qui j'ai fait ma thèse, donc d'Holbach. Je n'ai à faire valoir pour ma présence, comme ça a été rappelé très gentiment aujourd'hui, qu'une édition parascolaire ancienne maintenant, des Lettres persanes en 2006, où j'avais en particulier tenté de mettre en valeur ce qu'on peut appeler la matière d'Orient, dans les Lumières en général, et plus spécifiquement dans un groupement de textes, la fascination du sérail de Racine à Sade, thématique qui vous est sans doute coutumière et qu'Alain Gros-Richard a présenté d'une manière assez magistrale dans une perspective psychanalytique. Autant de thématiques qui, en particulier à travers le paradigme légué par Montesquieu du despotisme oriental, ne sont pas tout à fait étrangères à la question qui vous est imposée pour l'étude des œuvres, mais qui, cependant, évidemment, ne la rencontrent que de manière partielle, voire oblique. Et j'insiste sur cet adjectif, j'aurai l'occasion d'y revenir. Avec l'inflation des publications touchant les lettres persanes, et pas seulement cette année pour le programme des classes préparatoires scientifiques, mais également avec la mise au concours à l'agrégation de lettres en 2014, je ne prétends évidemment rien dire d'original sur une œuvre dont bien des thématiques ont déjà été abondamment commentées, et la vôtre en particulier. Je vous épargnerai donc une énième variation sur la dynamique romanesque du sérail et son interprétation en termes de philosophie politique, ou bien encore sur la déconstruction des rapports de domination entre les sexes dans ce roman, qu'on peut lire, même si cela est discuté d'ailleurs, comme une variation féministe. Toute chose, donc, qui rencontre parfaitement votre intérêt, j'en suis bien conscient, mais qui ont été si souvent et si bien commentées ailleurs, et encore tout récemment d'ailleurs, à votre destination particulière, que je m'en voudrais d'y revenir. Non, ce que je me propose donc, d'emprunter plus modestement et encore une fois, sans prétendre aucunement à l'originalité, c'est un parcours qui isole, à partir d'une acception assez ouverte de la thématique de la soumission et de la servitude, quelques points d'achoppement récurrents dans l'interprétation des lettres persanes en m'appuyant sur les exégètes les plus importants et autorisés de l'œuvre, je pense évidemment, et ces noms vous sont familiers certainement, à, du côté philosophique, Céline Spector ou côté plus proprement littéraire, Jean Golzin, Catherine Volpi-Lacogé, Yann Herman, Philippe Stewart ou Christophe Martin, pour n'en citer que quelques-uns. Parcours susceptible, c'est au moins mon espoir, de mettre en valeur le caractère extrêmement labile des leçons, même les plus attendues, que l'on peut tirer d'une œuvre au bout du compte particulièrement retorse. Alors, à défaut d'être convaincant, j'essaierai au moins d'être bref et je mettrai en avant, notamment, pour des raisons qui ne sont pas uniquement de déformation professionnelle, des préoccupations religieuses. Alors, pour débuter cet itinéraire, dans les lettres persanes, je voudrais isoler un motif par lequel ce roman, s'il est un roman de la contrainte et de la mise en scène de la soumission et de la servitude, est aussi, dialectiquement, une élaboration virtuose de l'insoumission. Je veux parler ici d'une des formes d'insoumission les plus délicates et les plus touchantes dans le roman, qui semble participer d'une forme paradoxale de débordement de la servitude. Je pense évidemment au suicide. En effet, le suicide ne fait que soustraire la personne victime d'une violence, qu'elle soit sociale, cette violence existentielle ou sentimentale, en semblant retourner contre elle-même cette violence ressentie comme insupportable. Cet anéantissement privilégie donc une voie particulière de réponse, une espèce d'esquive, disons, une façon d'échapper et de se dérober à la contrainte qui retourne la violence sur la victime même, au lieu de la diriger contre ceux ou celui qui agresse. En ce sens, le suicide se situe aux confins de l'économie de la libération. Ce n'en est nullement donc la face positive, mais une modalité extrême, une espèce de régime d'exception, par lequel l'individu met volontairement un terme à une situation intenable en choisissant la mort plutôt qu'en conservant la vie. Ce qui est remarquable, c'est que la thématique de ce motif, du suicide donc, recouvre dans le roman les deux voies antagonistes que mon collègue Colas Duflot a appelé le dissertatif d'un côté et le narratif de l'autre. Cela permet, à mes yeux, à une échelle plus réduite et donc plus maniable que le motif envahissant, beaucoup plus développé donc du sérail, de considérer l'articulation entre le récit et la théorie, soit de s'interroger sur l'homologie que les deux plans établissent, ou pour le dire autrement, la manière dont les éléments théoriques et conceptuels, analysables en tant que tels, dans le roman, sont confirmés par la narration. Que le despotisme mène à la catastrophe, hein, se retrouve, comme l'on sait, dans la logique même d'anéantissement final du sérail. Il reste à voir comment se conjuguent, dans la question du suicide, la mise en œuvre théorique et le déploiement narratif pour mieux identifier où se situe justement cette insoumission qu'on peut y déceler. Au bout du compte, il s'agit de se pencher en particulier, dans le sillage des travaux de Catherine Volpi-Lacogé, hein, sur trois lettres qui méritent l'attention à plusieurs égards. Je fais référence aux lettres 76, 77 et 161. Car pour tout lecteur, le grand moment, c'est évidemment, à l'ultime lettre du roman, le geste final de Roxane, cette mort qu'elle se donne en héroïne tragique pour échapper à celui qui l'a asservie, alors qu'à l'article de la mort, elle revendique une liberté inaliénable. Le suicide se présente comme un aveu d'une insoumission et comme l'aveu d'une insoumission radicale. Je vous rappelle les propos si fameux et ce final si touchant de la lettre 161. « Comment as-tu pu penser que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices, que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. J'ai profané la vertu en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux, tu me croyais trompé et je te trompais. » Le geste, comme cela a été souligné à l'envi par les commentateurs, hein, reste au demeurant ambigu dans sa violence même. Ce n'est pas seulement que l'héroïsme supposé est entaché par un sentiment de haine ici, qui en altère peut-être la pureté, c'est aussi que les conditions de réalisation du geste prennent un éclairage plus complexe avec, et c'est un point important, les additions nombreuses de l'édition posthume, donc de 1758, qui est donc l'édition de référence pour le concours ici, pour cette année, et qui est l'édition de toute façon la plus répandue. Roxane, désormais, escortée dans la mort par Zaki, qui implore dans la lettre 157, ou Zélis, qui se retranche dans un stoïcisme hautain à la lettre 158, Roxane, donc, apparaît pressée également par les dispositions répressives que Solim met en place avec une certaine satisfaction sadique révélée par la nouvelle lettre 160. Hein, je sens déjà une joie secrète, vous connaissez la tournure. Dans la version posthume, donc, Roxane n'est plus isolée dans sa révolte désespérée et le caractère volontaire de sa mort est sujet à caution car le poison a pu lui être imposé par Solim, donc, comme une espèce de suicide sur commande à la manière antique, mais pour le coup pas de la belle antiquité républicaine, mais plutôt celle impériale. Malgré ces aménagements tardifs, donc, la force de ce dernier acte s'impose, d'autant plus qu'il peut sembler s'autoriser d'une défense du suicide faite précédemment dans le roman de manière tout à fait argumentée. En quelque sorte, le narratif a été précédé et préparé par le dissertatif, toujours pour reprendre ces catégories de Colas Duflot. La lettre 76 d'Usbek à son ami Ibn prend en effet offensivement parti dans la question du suicide en proposant une argumentation qui vaut incontestablement réhabilitation. Tout au moins, sortons nettement de la condamnation sans appel de la religion à son endroit, car Usbek relie le suicide non dans une optique de soumission au pouvoir absolu de Dieu, mais en termes contractuels. Le suicide appartient résolument à l'ordre mondain, celui de la vie en société. C'est, si l'on veut filer la métaphore juridique, une rupture unilatérale de contrat justifiée par le non-respect de la clause initiale, justement, de ce contrat social. Je lis les termes de la lettre 76. La société est fondée sur un avantage mutuel, mais lorsqu'elle me devient onéreuse, qui m'empêche, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'empêche d'y renoncer, la vie m'a été donnée comme une faveur, je puis donc la rendre lorsqu'elle ne l'est plus. Il faut ajouter qu'Usbek renverse astucieusement l'argument théologique qui fait du suicide un acte moral de rébellion contre Dieu et donc une forme d'orgueil. L'orgueil, aux yeux d'Usbek, est plutôt chez ceux qui considèrent le suicide comme un acte important pour l'homme, alors que tout est inconsistant au regard de Dieu, en quelque sorte. Le péché d'orgueil est chez le théologien, finalement. Toujours la lettre 76. Nous ne sentons point notre petitesse. Et malgré qu'on en ait, nous voulons être comptés dans l'univers, y figurer, et y être un objet important. Nous nous imaginons que l'anéantissement d'un être aussi parfait que nous dégraderait toute la nature. Incontestablement, et dès d'ailleurs l'apparition du roman, c'est cette lettre qui a été vue de manière privilégiée comme un exemple des thèses scandaleuses que comporte le roman. On remarquera que c'est d'ailleurs le suicide que Marivaux choisit comme exemple de ces matières un peu trop légèrement traitées dans son bref compte-rendu du Spectateur français que vous connaissez en septembre 1722. Précisons que c'est directement à l'auteur, qui à l'époque, j'entends, qui au moment de l'apparition n'est pas découvert, tout à fait. Et non au personnage, donc, que Marivaux prête les thèses les plus provocantes, qui illustrent avant tout une recherche de singularité. Je cite Marivaux. L'auteur, par exemple, blâme les lois de l'Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes. Il les appelle injustes et furieuses. Il veut qu'on laisse à l'homme le droit de sortir de la vie quand elle lui est à charge. De l'air décisif dont il parle, on croirait presque qu'il est entré de moitié dans le secret de cette même création. On croirait ce qu'il dit, pendant qu'il ne le dit que parce qu'il se plaît à produire une idée hardie. Alors Marivaux n'est pas isolé dans cette critique des prétentions déplacées du romancier, nullement prêt à se soumettre aux théologiens, car quelques mois auparavant, en janvier 1722, Camusat, dans le périodique d'Amsterdam, Les Mémoires historiques et critiques, disait encore plus abruptement, mais avec des termes qui se rapprochent, en renvoyant d'emblée d'ailleurs au même exemple, pour débiter des principes hardis et éloignés de la manière ordinaire de penser, cet écrivain permet l'homicide de soi-même sur les prétextes les plus frivoles. C'est l'orgueil donc du romancier, cette fois-ci, son insoumission aux vérités théologiques qui sont stigmatisées. S'il est quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à exonérer l'auteur des audaces qu'il prête commodément à un de ses personnages, c'est bien une génération après Marivaux, le janséniste Gautier, donc, l'auteur des Lettres persanes, convaincu d'impiété en 1751. Et ce janséniste n'a pas peur de lever le masque persan sans complexe pour dénoncer l'impiété de l'auteur qui a fait paraître peu auparavant, en 1748, son grand œuvre, L'Esprit des lois. Je cite Gautier. Le persan qui parle est un français très connu qui met dans la bouche du persan ce qu'il pense, lui, français, en matière de religion, c'est le mot connu de l'avertissement. Ce qui invite, évidemment, à relire la production de 1721 en s'étonnant, au passage, du peu de réaction qu'elle a suscité à l'époque, ce qui est mis sur le compte des turbulences jansénistes. Je cite toujours l'avertissement. Hein. Alors, on ne pensait qu'à la bulle Unigenitus. Il n'en demeure pas moins que Jean-Baptiste Gautier décèle une irreligion foncière dans les Lettres persanes qu'il lit et cite dans une édition, la seconde édition de 1721. Il s'arrête en particulier longuement sur notre lettre 76 donc, pour reprendre de manière orthodoxe le débat posé dans le roman. Et cela donne ceci, je vous lis Gautier. Notre vie n'est point à nous, elle est à Dieu, et Dieu nous défend de nous donner la mort, vous ne tuerez point, voilà la loi. Elle ne souffre point de dispense à l'égard du suicide. Le rejet de la position avancée par Usbek se lit et se dit dans le retour au dogme de la déchéance humaine qui invalide la perspective contractuelle privilégiée dans le roman. En outre, même concède-t-il en faisant abstraction du christianisme et en restant dans l'hypothèse d'un contrat social sous-jacent aux lois, le critique désigne un vice dans la logique et le raisonnement de l'auteur. Je cite toujours Gautier. « Je conviens que quand vous ne vivrez plus, vous ne serez plus liés par les lois. Mais il faut attendre que vous ne viviez plus. » L'auteur ne s'est pas aperçu que son sophisme lui coupe la gorge. Il s'est pris dans le filet où il voulait prendre les autres. Enfin, argué de la petitesse de l'homme face à Dieu pour soutenir l'indifférence du Créateur envers sa créature, c'est se faire une représentation fausse de Dieu, évidemment, dans l'esprit du janséniste. Et je cite toujours, « Il n'y a pas un grain de sable qui puisse se dérober non seulement à la connaissance, mais à la puissance de Dieu. » Bref, le suicide ne peut être interprété autrement que comme une rébellion contre Dieu, un refus de se soumettre à ses décrets, insoumission qui cache véritablement, chez celui qui la défend, un rejet de la religion, et en l'occurrence ici, chez l'auteur. À cet égard, la lettre 76 appartient à l'ensemble des discussions théologiques qu'entreprennent, avec un sens aigu de ce qu'on pourrait appeler l'examen, et ce terme est intéressant d'ailleurs, majoritairement Usbek et plus rarement Rica, dans quelques missives largement repérées et commentées par la critique depuis longtemps. Ce sont d'ailleurs ces lettres, que reprend méthodiquement Gautier dans son ouvrage donc de 51, en examinant à la suite 11 lettres, dont les lettres 83 sur la justice divine, 97 sur la place de la science et de la rationalité, 125 sur la récompense future, 46 aussi sur l'importance plus grande de la morale que des dogmes, ou encore la question subsidiaire, mais qui intéresse beaucoup Gautier, du célibat religieux dans la lettre 117, et donc aussi notre lettre 76. Il le réplique en suivant toujours le même protocole, qui pourrait être fastidieux, hein, il donne les citations et puis il réplique en son nom, n'en parvient pas moins à isoler assez lucidement, me semble-t-il, la portée contestatrice du penseur politique, quelque modéré qu'il se présente et quelque conscience qu'il manifeste par ailleurs dans l'esprit des lois, puisque ça a ressurgi à propos de la publication de l'Esprit des lois en 48, de l'utilité sociale de la religion et de son action dans la formation des mœurs, puisque c'est évidemment la grande question de l'esprit. Dans les lettres persanes, Au contraire, cette même action, manifestement, se laisse lire dans des termes moins flatteurs. Elle est juxtaposée à la thèse honnie, d'ailleurs, de la tolérance entre confessions. Et je vous lis un extrait de la lettre 85. Hein. Il n'y en a aucune, sous-entendu de religion, qui ne prescrive l'obéissance et ne prêche la soumission. Si je cite Gautier, c'est que sa critique a eu des conséquences sur le roman lui-même. Il est certain que Montesquieu a Gautier en ligne de mire quand il se met au début des années 1750 à préparer une nouvelle édition de ce roman qui ne paraîtra, au bout du compte, qu'après sa mort. Bon, contrairement, comme vous le savez, à la légende de publication en 54. Mais les commentateurs ont dû reconnaître qu'il a, au bout du compte, très peu changé les discussions théologiques elles-mêmes, qui, selon Jean Goldzinck, hein, se prêtent assez peu aux débats contradictoires dans le roman. Montesquieu paraît adopter une stratégie beaucoup plus globale, finalement, condensée dans la fameuse, ce qui est devenu maintenant la préface, c'est-à-dire les quelques réflexions sur les lettres persanes qui se terminent par ce superbe retour à l'envoyeur. Certainement, la nature et le dessein des lettres persanes sont si à découvert qu'elles ne tromperont jamais que ceux qui voudront se tromper eux-mêmes. Cependant, sur la question du suicide, Montesquieu fait une exception et répond explicitement aux attaques de Gautier, ce qui offre l'occasion rare de voir à l'œuvre son art de la polémique qui pourrait bien se présenter ici comme un art de l'esquive. L'apparente soumission à l'orthodoxie religieuse cache une insoumission profonde contre l'autorité de l'Église. Je fais référence donc à la brève lettre 77 qui ne fait son apparition que dans l'édition de 58. Présentée comme la réponse à la lettre 76 par Ibn à Usbek, elle semble faire une concession de taille en marquant le bien fondé d'une condamnation portée par la théologie et les lois. Selon les termes du second paragraphe, donc, de cette lettre 77, hein, sur lequel se termine d'ailleurs la lettre très abruptement, si un être est composé de deux êtres, car l'âme et le corps, hein, et que la nécessité de conserver l'union marque plus la soumission aux ordres du Créateur, on en a pu faire une loi religieuse. Si cette nécessité de conserver l'union est un meilleur garant des actions des hommes, on a pu en faire une loi civile. Alors le plus intéressant est peut-être de suivre, comme on peut le faire grâce à l'édition critique, hein, les étapes successives de cette laborieuse réorientation ou rééquilibrage forcé, disons, de la question du suicide. Le phénomène le plus troublant, le plus utile à repérer, c'est que la lettre 77 n'est rien d'autre que l'autonomisation d'une espèce d'excroissance qui était contenue au départ dans la lettre 76. C'est ce que révèle donc le premier état des quatre états manuscrits qui nous sont restés et qui nous permettent de reconstituer la trajectoire jusqu'au texte final publié de manière posthume. Au début donc, c'est Usbek lui-même qui se reprend et qui répudie son raisonnement initial comme s'il relevait d'une forme de paradoxe outré. C'est donc une mention qu'on trouve sur un manuscrit. Je vous lis. « Toutes les choses que je viens de dire, mon cher Ibn, sont des paradoxes qui, je crois, ne tiendront pas devant le raisonnement que je vais te faire. Depuis que l'être suprême a uni nos âmes à nos corps, l'être composé a toujours une horreur secrète de la séparation des deux êtres simples. Ce sentiment est une branche de la loi naturelle. » Le second état nous oriente déjà vers une rédaction plus proche de l'état final, puisque c'est une ouverture qui débute ainsi. « Mon cher Ibn, Donc c'est toujours Usbek qui s'adresse à Ibn. Hein. « J'ai peur que ma philosophie ne m'ait porté trop loin. » Et pour faire ce retour en arrière, il l'enchaîne ensuite sur « si un être, etc. », c'est-à-dire « si un être est composé de deux êtres », la citation définitive que je vous ai lue de la lettre 77. C'est ce texte, donc, qui est à la base de la quatrième version, où l'addition s'autonomise et devient à soi seul une lettre qui inverse le sens de l'échange. C'est désormais Ibn qui parle, avec cette entrée en matière. Hein. « Mon cher Usbek, j'ai peur que ta philosophie ne t'ait porté trop loin. » Simplement le changement de l'adresse, en fait, la phrase est la même. Et la suite est à peu près similaire. « Écoute ce raisonnement, si un être, etc. » Et la dernière étape, ce sera donc celle que vous avez en rajoutant un premier paragraphe. L'étude génétique invite à souligner à la fois l'audace et la prudence de Montesquieu. C'est un diagnostic qui mériterait sans doute, d'ailleurs, d'être élargi à l'échelle de ses positions religieuses. Il accepte ici d'obtempérer sur certains points, en se rendant, par exemple, à la conception traditionnelle de l'union de l'âme et du corps, qui lui permet d'échapper, évidemment, aux reproches de matérialisme. Alors, soit dit en passant, alors même que l'idée d'une matière active constitue une de ses positions naturalistes incontestablement étayées sur ses propres recherches et curiosités biologiques ou scientifiques, de manière plus générale. De la même manière, il donne à entendre des positions plus en phase avec l'orthodoxie. Mais ce qui retient davantage l'attention, c'est le travail sur l'énonciation. Les assertions ne sont plus présentées dans la version définitive comme des objections qu'une conscience se fait à elle-même dans le travail du raisonnement, mais comme des avis, justement venus d'un ami qui tempère ce qu'il considère comme une erreur. Pour le dire autrement, en suivant toujours Catherine Volpi-Lacogé, l'énoncé orthodoxe vaut surtout par l'éthos de l'énonciateur, à la fois, disons, raisonnable et ouvert. C'est un musulman orthodoxe qui parle, Ibn, mais de manière compréhensive. Le choix des tournures conditionnelles peut se lire comme la justification d'une hypothèse qui ne s'impose pas comme un énoncé dogmatique. Le « si », hein, « si un être », le « si » de l'hypothèse n'est pas seulement la condition d'un énoncé rationnel, qui entraîne donc inéluctablement sa conséquence, c'est aussi, de manière plus pragmatique, disons, dans une optique plus pragmatique, une invitation à réfléchir autrement adressée à Usbek. En d'autres termes, le balancement des points de vue que présente le diptyque formé par les lettres 76 et 77 ne trahit peut-être pas tant un acte d'allégeance, soit une soumission à l'orthodoxie, qu'il ne présente une sorte de temporisation avec une position, celle de la religion, présentée sous son jour le moins dogmatique et pour le coup le plus acceptable. Il semble bien donc qu'en ajoutant la lettre 77, Montesquieu veuille surtout montrer, au soir de sa vie, qu'il ne retire rien de ce que la lettre 76 établit. Il lui adjoint seulement un contrepoint orthodoxe dont la tonalité est une critique indirecte de ses détracteurs religieux, au premier rang desquels Gautier. Car la bonhomie d'Ibn tranche justement avec la rigidité doctrinale du janséniste et montre le gouffre qui sépare une attitude bienveillante d'une démarche suspicieuse comme celle de Gautier. Montesquieu n'a paru se soumettre à l'orthodoxie que pour mieux rester insoumis, sans doute. On ne croira pas trop vite, au demeurant, et c'est un point qu'il faut mettre en avant, que les lettres persanes donnent la conception ultime et arrêtée de Montesquieu lui-même sur le suicide. Loin s'en faut. La mansuétude réclamée dans les lettres persanes, et dont Usbek se fait le porte-parole, ne relève pas d'un jugement moral définitif sur le suicide en tant que tel. Comme Luigi Delia l'a très bien démontré, me semble-t-il, le suicide n'est pas perçu chez Montesquieu des lettres persanes à l'esprit de loi et même au-delà, ces derniers ouvrages non imprimés, comme un phénomène univoque. Le penseur de la société est au contraire beaucoup plus sensible à la variété des causes qui explique une conduite qui peut aller du suicide héroïque antique qui incarne une vertu politique et que Roxane a semblé parodier, jusqu'au fameux spleen anglais, vous savez, cette épidémie de suicide qu'on diagnostique en Angleterre au XVIIIe siècle et qui inquiète tant les penseurs, Voltaire y compris. Donc jusqu'à ce fameux spleen anglais qui semble relever, lui, dans l'esprit de Montesquieu, davantage du climat. Chaque espèce de suicide s'inscrit dans une histoire particulière, c'est-à-dire dans un réseau de causalités sociales et naturelles qu'il serait présomptueux de vouloir réduire à la seule dimension morale. Ce qui peut donner, évidemment, l'impression au lecteur et au lecteur de Montesquieu que ces jugements sont à géométrie variable, voire qu'ils sont susceptibles de retomber dans la condamnation justement évitée par les lettres persanes. Ainsi, des suicides en Angleterre, si on le suit, hein, et notamment dans l'esprit des lois, ces suicides, ils plaident pour qu'il y ait un renforcement de l'arsenal judiciaire dissuasif. Mais c'est dans ce cas parce que, justement, la loi doit contrarier, autant que faire se peut, l'effet, en quelque sorte, mécanique et donc inéluctable du climat. La vérité du roman tient donc dans le refus d'une vision étriquée du suicide portée par le discours religieux, mais elle ne préjuge pas de la vérité du phénomène que seule l'analyse sociale à la manière de Montesquieu est à même de restituer dans sa complexité. On notera en passant, et ça me servira de transition, qu'avec l'apparition de la lettre 77, Ibn est ainsi crédité d'une des rares lettres dont il soit l'émetteur. S'il endosse volontiers en sa qualité d'ami, mise en avant d'emblée hein, dans le texte, le rôle de destinataire, recevant 11 lettres de Rika ou 14 d'Uzbek, il est exceptionnel qu'on le surprenne en tant qu'auteur d'une missive, et encore plus exceptionnel, qu'il se montre quasi-théologien dans la lettre 77. On l'a connu même, et pourtant, en tant qu'auteur, beaucoup moins dogmatique et même franchement plus ambigu. C'est à lui, en effet, qu'on doit, dans la seule autre lettre qu'il écrive, adressée également à Uzbek, une des histoires enchâssées qui font la saveur, mais aussi la difficulté des lettres persanes. Je fais allusion à l'histoire des guèbres amoureux de la lettre 67, hein, l'histoire d'Aphéridon et d'Astarté. Car le récit d'une libération authentique du sérail n'a pas ménagé des harmoniques étonnamment libres, alors libres au sens anti-religieux ici, hein, qui ne préparent nullement l'image de musulmans pleinement orthodoxes, mais conciliants, dont Ibn se part dans la lettre 77, voire elles entrent en contradiction assez nette avec elle. Faut-il rappeler que les deux héros de cette histoire, se parlant dans leur langue particulière, presque éteinte, qui souligne d'ailleurs leur singularité, n'ont a priori rien de modèle pour celui qui en rapporte complaisamment l'histoire et qui s'est fait même un ami très cher du héros Aphéridon, il dit l'ouverture de la lettre 67, hein, un guèbre, donc il parle d'Aphéridon, qui, après toi, s'adressant à Uzbek, a, je crois, la première place dans mon cœur. Ce guèbre n'aura de cesse, en effet, de ramener sa sœur, dont il est amoureux, à la religion de ses ancêtres, la rendant pour cela apostat de l'islam, sans qu'Ibn en marque une quelconque réprobation en introduisant l'histoire. La rapide dispute théologique qui précède le retour d'Astarté en la croyance en Zoroastre, hein, tente de laver cette dernière croyance de tout soupçon d'idolâtrie ou de polythéisme. Les guèbres, souligne Aphéridon, savent faire la distinction entre, je cite, un culte religieux mais inférieur, et, je cite toujours, la divinité elle-même. Position déiste, disons-nous clairement, position déiste, dans une certaine mesure, qui amoindrit, en tout cas, le prestige réclamé par l'islam, c'est-à-dire dans la bouche d'Astarté encore, en tant que seul monothéisme véritable. Le récit se fait donc à la fois histoire d'une fidélité, insévérablement sentimentale et religieuse, et récit d'une sortie de l'esclavage. Sortie laborieuse, d'ailleurs, et en plusieurs étapes. Astarté, au sortir du sérail, est marié à un eunuque, s'enfuit avec son frère qui la délivre, puis est kidnappé par des Tartares, avant qu'un Arménien, ému de cette famille infortunée qui a dû se vendre, n'accepte de la libérer au bout d'un an. Cette rare leçon de bonheur ne manque pas, comme on le voit, de mettre en valeur des marques de dissidence assez profondes. Explorons à la suite, et peut-être dans le même esprit, une dernière piste. Toujours aux marges du sérail d'Usbek, ou plutôt dans ses abattoirs, puisqu'à certains égards, évidemment, la question du sérail se démultiplie dans les variations dont elle a fait l'objet. À côté du sérail d'Usbek, à côté de celui qui a retenu Astarté dans la lettre 67, il y a évidemment celui d'Ibrahim. Dans l'histoire d'Ibrahim et d'Anaïs, hein, je reprends les termes de la table des matières, raconté par Zulema et rapporté par Rika à Usbek dans la fameuse lettre 141. Alors mon propos ici n'est pas de revenir sur la leçon qu'apporte son insertion à ce moment-là du roman, c'est-à-dire juste avant la série finale des lettres qui recentrent le propos sur l'effondrement du sérail propre d'Usbek. Comme si l'histoire en constituait, d'une certaine manière, l'annonce. Il faut rappeler en effet que la lettre est adressée par Rika à Usbek, qui aurait peut-être dû être alerté par cette révolution au sérail racontée par une femme, Zulema donc, et résumons l'histoire, hein, un mari jaloux, Ibrahim, se fait chasser de son sérail en étant remplacé par un imposteur, envoyé depuis le paradis par Anaïs, son ancienne femme. Celle-ci se venge ainsi de la mort qu'Ibrahim lui avait infligé parce qu'elle avait osé défier son autorité. Mais il est vrai qu'il ne s'agissait là que, dit-on, d'un conte persan. Raconté complaisamment par Rika à une femme française qui goûtait peu les mœurs du sérail, Usbek n'y a donc pas prêté attention, peut-être embarrassé, et à vrai dire embarrassé comme nous lecteurs, par la profusion de ce montage narratif. En suivant Yann Herman, je voudrais tirer plutôt de cette histoire de libération une leçon oblique sur l'insoumission. Et pour cela, il convient avant tout de prêter attention au système d'enchâssement complexe dans lequel s'insère cette histoire. Rappelons donc que c'est Rika qui reproduit travesti, l'adjectif est dans le texte, le comte persan mettant au premier plan une femme de Savoie, Zulema, renommée pour sa connaissance du Coran. Afin de répondre à l'interrogation de femmes d'un sérail qui ont entendu dire que le paradis leur est interdit, elle raconte elle-même l'histoire d'Ibrahim et Anaïs, autres femmes savantes, et même plus précisément, dit-on dans le texte, philosophes. Ainsi, on relèvera l'importance accordée à des femmes de tête, visiblement engagées dans l'émancipation de leur sexe, mais on ne peut manquer de relever surtout que cette émancipation ne peut se réduire à la leçon explicite de l'ouverture du sérail par l'imposteur qui en fait un lieu de passage où les femmes n'ont plus à se voiler. Elle ne se redit donc pas non plus, sans doute, à cette image inversée du sérail dans la vision, alors, qui est peut-être délicate à commenter en classe, je ne sais pas, dans la vision d'un harem paradisiaque au masculin, imaginé par et pour les femmes, Car en y repensant de plus près, ce que Zulema nous apprend là n'est pas seulement une vision audacieuse, incontestablement, du plaisir au féminin. Ce qui se joue à ce moment du récit, c'est une affaire de repère. Pour dire les choses autrement, pour parler avec des femmes du sérail du paradis, on ne peut le faire qu'avec les catégories de leur univers de référence. Or, comme elles ont vécu tout le temps dans le sérail, il faut évidemment parler avec les catégories du sérail lui-même. L'outre-monde, donc, cet outre-monde paradisiaque, n'est donc pas une version améliorée de notre monde, c'en est le reflet inversé. Autant dire une supercherie ou une image trompeuse qui nous enferme. S'il faut être philosophe, comme Anaïs sait l'être, d'ailleurs, et favoriser vraiment l'émancipation, il convient d'élargir ce monde de référence par des variations imaginaires qui soient susceptibles de donner l'idée d'autres manières de faire. C'est le rôle, donc, du faux Ibrahim, être imaginaire, qui ouvre les yeux des femmes du sérail. Image trompeuse, certes, celle d'Ibrahim, mais dans un autre sens. Ce double imaginaire porte la leçon du roman. Il incite les êtres à élargir leur horizon. Il leur apprend donc l'insoumission. La lettre 141 joue donc des niveaux narratifs pour délivrer une leçon également à plusieurs niveaux, ni tout à fait obscure, ni trop évidente, dans ce clair-obscur qu'aime bien utiliser Montesquieu, qui fait le partage donc entre les forces de l'imagination qui enferment et celles qui libèrent. Incontestablement, les livres sacrés, sur lesquels se fondent les religions et dans lesquels apparaissent le paradis, donc, appartiennent aux premières. L'image qu'il donne du bonheur n'est que le reflet des forces sociales agissantes. La lettre pose donc la question des fondements du sacré, en même temps qu'elle invite le lecteur à s'interroger sur les séductions de la fiction. Elle est donc un exercice de mythographie. L'histoire d'Ibrahim et d'Anaïs, telle que nous l'avons lue, pourrait, à ce titre, être mise en relation avec celle qui lui succède immédiatement et qui constitue une autre catastrophe fabuleuse. Je veux parler de la variation pseudo-mythologique de l'eau en fils d'Éole dans la lettre 142. Mais cela demanderait d'autres élaborations et donc je préfère m'arrêter ici. Concluons. On connaît la critique de Marivaux. Je vous relis un passage toujours de son article dans le Spectateur français. « Je ne vois qu'un homme qui badine, mais qui ne sont pas assez qu'en se jouant, il engage quelquefois un peu trop la gravité respectable de ses matières. » Alors, on est toujours étonné de voir Marivaux s'étonner du badinage des autres. Mais peu importe. Ce badinage, on sait que Montesquieu se plaît lui-même à l'épingler dans la lettre 63 comme un trait caractéristique des Français, et particulièrement d'ailleurs des Françaises. Je cite « Ce badinage, naturellement fait pour les toilettes, semble être parvenu à former le caractère général de la nation. » Badinage qu'il oppose donc à cette, je cite, « servitude du cœur et de l'esprit » qu'il voit dans sa propre culture, inféodée au despotisme oriental. Mais ce badinage est justement la seule réponse efficace à cette servitude imposée dans un âge où les idées, faute de circuler librement, ne peuvent s'exprimer qu'avec d'infinies précautions. Montesquieu, au-delà donc du masque persan même, emprunte la voie oblique d'une insoumission qui passe par les détours de la fiction et de l'allusion. Une manière de style philosophique, donc, qui rend aussi, peut-être, mais c'est son intérêt, son commentaire un peu plus risqué. Voilà, je vous remercie de votre attention.